18h50. Et donc nous allons nous réunir pour donc 13 délibérations. Et donc je vais procéder à l'appel. Monsieur Alain Alberti, Madame Colette Alexandre, Madame Sophie Arroche absente, Monsieur Christian Bentoumi, Madame Laurence Berlemont absente, Madame Anastasia Bringuet absente, Madame Jeanne Cavallaro, Madame Gisèle Pernet, Monsieur Steve Courdouan, Monsieur Jean Culinati, Madame Géraldine Dudon, Madame Anaïs Dufeu, Monsieur Max Fabre, Monsieur Patrick Valentin a donné pouvoir à Monsieur Michel Morel, Monsieur Norbert Giraud est absent, Madame Marie-Sylvie Grosvert, Monsieur Franck Jamin a donné pouvoir à Monsieur Jean Culinati, Madame Colette Lair, présente. Monsieur Julien Lassoc, présent. Monsieur Christian Lefebvre, présent. Monsieur Michel Morel, présent. Monsieur Luc Pernet, présent. Madame Corinne Rinaudot, présente. Monsieur Georges Emonin, présent. Monsieur Olivier Barral, présent. Et Madame Josiane Villain a donné pouvoir à Monsieur Georges Emonin. Donc nous avons bien le quorum et donc nous pouvons bien démarrer la séance. En termes de secrétaire de séance, est-ce qu'il y a une personne qui est disponible pour venir signer le procès-verbal et tous les éléments qui seraient volontaires dans la semaine qui suit? Alors je te regarde parce que je sais que tu n'es pas là après. Monsieur Courdouin, Steve? Oui, allez Steve, tout le monde est d'accord? Allez. Donc nous attaquons, donc première délibération, justement l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 mars 2023. Est-ce que vous avez des remarques au sujet du procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Transfert et reprise de compétences, 6 000 hectares. Et je donne la parole à M. Luc Pernet.
Par délibération en date respective du 23-09-2021 et 36-2022, les communes de Roquebrune-sur-Argent et Puget-sur-Argent ont acté la reprise de la compétence optionnelle numéro 7, IRV, pour la transférer à la communauté d'agglomération Estérelle Côte d'Azur, qui a rejoint le réseau de bornes de recharge existant situé dans le département des Alpes-Maritimes, composé de plusieurs EPCI à fiscalité propre. Cannes, Pays de l'Hérens, Sophie Antipolis, Pays de Grasse. Par délibération en date du 14-12-2022, la commune de Carcès a acté le transfert de la compétence numéro 8, maintenance de l'éclairage public, au profit de Siemelec-Var. Par délibération en date du 26-01-2023, la commune de Gonfaron a acté le transfert de la compétence numéro 8, maintenance de l'éclairage public au profit de Siemelec-Var. Par délibération en date du 10-02-2023, la communauté d'agglomération de la Provence verte, CAPV, a acté le transfert de la compétence numéro 7, réseau prise de charge électrique au profit de Siemelec-Var. Le comité syndical du Siemelec-Var a délibéré favorablement le 9 mars 2023 pour approuver les transferts et reprises de compétences annoncées ci-dessus, considérant que, conformément à l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la loi numéro 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces transferts de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération au Conseil municipal. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver les transferts et reprises de compétences optionnelles ci-dessus annoncées et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.
Merci, M. Pernet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce transfert et reprise de compétences? Qui Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Alors pour info, on a prévu 2 emplacements pour des bornes de recharge. 4. 2 bornes donc, qui permettraient de faire 4 prises de recharge dans le futur parking Saint-Benoît, puisqu'on voit que ça marche très bien dans l'ensemble du village. Et juste à Saint-Benoît, venir à pied après au centre, c'est assez facile. Et surtout, elle est bien visible également. Bien, nous passons à délibération numéro 3. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité. Délibération numéro 3, restauration du buste républicain de Marianne qui date du 19e siècle. Et je donne la parole à Madame Jeanne Cavalero, car la République est féminine.
Merci, Monsieur le maire. Alors, la commune du Val possède un trésor rare, mais lequel ? Alors, il s'agit d'un buste de Marianne. C'est celui qui avait été commandé pour l'inauguration de 7 mairies-écoles. Donc, c'était en 1886. Voilà. Alors, elle est rare. Alors pourquoi ? D'abord, parce que c'est un plâtre polychrome. Alors, à l'époque, on les faisait comme ça, pour un peu rivaliser avec les bustes reliquaires. Et puis, elle est chargée de plusieurs symboles. Alors, elle a une cuirasse qui représente une gorgone. Et ça... Oui, je m'y vois. Donc, alors... C'est la protection, elle a le bonnet phrygien avec une étoile, symbole de liberté, elle a aussi les cheveux lâchés car c'est une femme libre. Et puis elle a une couronne de feuillage, ça représente la gloire. Bon voilà, bon bref, vous avez compris que c'était un trésor, mais malheureusement elle est abîmée. Donc et c'est pour ça que monsieur le maire informe l'assemblée délibérante de l'intérêt de restaurer cette œuvre. Bon, j'espère que mon discours vous aura persuadé aussi. Réattribuer la place patrimoniale de choix. Monsieur le maire expose à l'Assemblée l'opportunité de confier ce travail à une restauratrice d'œuvres d'art compétente en ce domaine, en bénéficiant d'une subvention de la région Sud au titre de la chaîne patrimoniale à hauteur de 80% d'aide. Ça, c'est pas rien quand même. Hein. Les travaux comprennent le transport sécurisé pour un montant de 5 112 €, toutes taxes comprises. La région Sud, sous réserve d'acceptation, subventionne le projet pour un montant de 4 089 € TTC. Reste à la charge de la commune du Val, en autofinancement, un montant de 1 023 € TTC. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la restauration du buste de Marianne dans les conditions citées, sous réserve de l'obtention de l'aide accordée par la région Sud.
Bien, merci. Juste en précision, cette Marianne aurait été cassée il y a à peu près 10 ans. Nous, on l'a trouvée en 2019, elle était dans un placard, au milieu de chiffons. Donc on l'a récupérée, on l'a mise de côté et on s'est dit à un moment, on pourrait la restaurer. Ce moment, c'est aujourd'hui. Et pour la petite histoire, quand on était au tout premier congrès des maires, on a visité avec notre premier adjoint, Christian, l'Assemblée nationale. Et on a vu qu'il y avait la même Marianne, exactement la même. Et il en existerait 6 ou 7 à l'échelle nationale de ce type-là, vraiment sur ce modèle-là. Donc il y en a très peu. Donc c'est un trésor qui en fait une spécificité qu'on peut s'approprier, nous, au Val, en plus du symbole qu'elle représente de la République. Est-ce qu'il y a des questions ? Exactement. Subventionné à plus de 80%, avec le même niveau de subventionnement, alors. Bien, s'il n'y a pas de questions, je propose que l'on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Les valeurs, c'est aussi important. Donc, merci beaucoup. Délibération numéro 4, mise en place d'une convention de partenariat, point information touristique. Donc ça fait suite à la rencontre avec Madame la directrice de l'Office du tourisme de la Provence verte, Verdon. Et donc, ça rentre en compte dans le projet de l'ouverture de l'espace découverte et tourisme, intitulé « Patrimoine et terroir gourmand », grâce à un financement leader. Pour rappel, hein, c'était 90% de financement, un projet à un peu plus de 40 000 € qui a coûté 4 000 € à la commune. Or, tout le temps qu'on y a passé, après, en temps humain, il y a eu beaucoup de personnel mobilisé de la commune, notamment l'atelier de menuiserie, maçonnerie, électricité, mais ça a été fait en régie. Et c'est l'intérêt aussi, dans ce cas-là, d'avoir une régie à l'échelle communale. Donc, je vous informe de l'intérêt donc, de placer cet espace au cœur des enjeux touristiques. Il sera fléché par rapport à l'aire de camping-car. Il sera fléché aussi dans un ensemble de panneaux financés et subventionnés par le département du Var pour faire connaître de manière induite eh bien, notre patrimoine du village, notre histoire et donc dynamiser encore un peu plus l'économie et les différentes infrastructures qui sont situées sur le territoire communal. Donc, l'Office de tourisme intercommunautaire Provence Verte et Verdon à cette compétence et sa place comme clé d'entrée principale sur le territoire dans le domaine de la valorisation et l'économie locale. Donc c'est une opportunité pour nous de classer l'espace découverte qui est en train de naître sous nos yeux comme un point d'information touristique, première étape d'une nouvelle labellisation en tout cas en tant que point tourisme ou office de tourisme à plus long terme. Soyons ambitieux. Le but étant donc de servir de relais à l'offre touristique du territoire, mais avant tout de transmettre les renseignements propres sur la commune du Val, répondre aux commerces, les restaurants, les visites à faire, les découvertes, les petits secrets et les musées situés sur notre commune pour répondre d'abord à une première demande locale. Et l'idée aussi, ça serait à terme de pouvoir avoir une autre convention avec eux pour pouvoir faire des ventes de produits proposés par l'Office du tourisme, billetterie, et vous pourrez acheter vos billets pour des concerts organisés, par exemple, à l'échelle du territoire de la Provence Verte-Verdon. Donc c'est un réel plus pour les habitants. Ce n'est pas uniquement un point qui est dédié. On pense souvent quand on dit tourisme aux touristes, mais on peut être les propres touristes de notre territoire et bénéficier de plusieurs avantages. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'approuver et de mettre en place la convention de partenariat qui se situera donc au point information touristique pour l'espace découverte et tourisme, patrimoine et terroir gourmand. Vous avez des questions sur ce projet? Donc, je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, on avance. Délibération numéro 5, projet 2023, classe découverte à Briançon, dans le 04. Et c'est une demande de subvention de l'OCCE. Et je donne la parole à Madame Colette Lair.
Hop, ça marche. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe le conseil municipal du souhait de 3 enseignants de l'école élémentaire du Val, des classes 2CM1 et 2CM2, de faire participer leurs élèves à une classe de découverte à Briançon, dans le 04, au relais nature, archipel. Moi, je lis ce que je vois. Dans le 05, au relais nature, archipel, accueil international. Ce séjour sur le thème montagne et patrimoine se déroulera du lundi 19 au vendredi 23 2023, soit 5 jours et 4 nuits. Il concernera au total 82 élèves. Comme cela a été le cas lors de l'organisation précédente, séjour scolaire, une participation financière de la commune est demandée afin de soutenir ce type de projet. Pour précision, les familles versent également une participation de 135 euros, 75 euros élémentaires en cas de fratrie, ainsi que l'OCCE de l'école. OCCE, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas trop, Office central de la coopération à l'école. D'autre part, plusieurs donateurs participent à ce projet et des actions telles que la vente de créations faites par les enfants au marché de Noël de l'année dernière, ou encore une tambola ont été organisées pour financer le voyage. J'ouvrirai une petite parenthèse là. Pour la tambola, les conseillers municipaux du CME ont été très forts. Hein. Ils ont vendu tout leur carnet à quelques élus d'ici. Après concertation entre l'équipe enseignante et la municipalité, un montant donc de 65 euros par enfant est proposé, portant la subvention de l'OCCE de l'école à 5330 euros. Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur cette demande.
Merci Madame Lair. Vous l'avez bien compris, c'est pour la classe. Le moment tant attendu pour les enfants, ils vont faire de l'escalade, ils vont faire plein de choses. Je tiens à préciser qu'en plus de ça, il y a 1500 euros qui est versé par la municipalité à la caisse pour d'autres sorties. Et donc, ils ont fait le choix de mobiliser cette somme pour pouvoir participer dans ce budget. Donc, c'est un projet global où la municipalité participerait, si on le vote, à hauteur d'un peu moins de 7000 euros. Et je tiens à préciser quand même que la mairie, nous sommes très présents auprès des écoles, en plus du fonctionnement global, de tous les travaux qu'on a réalisés. Là, il y aurait 7000 euros, plus 2500 euros du carnaval, plus 1900 euros des cercles des petits philosophes, plus. Voilà, on est à plus de, entre 11 et 15 000, voire plus, d'investissement sur le projet éducatif. Donc, je l'ai encore redit au conseil d'école, c'est important. Je pense qu'il faut accompagner les enfants, mais il faut qu'on soit vigilant sur les projets qu'on peut accompagner. Vu la situation financière, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, il faut que tout le monde ait conscience de l'effort que nous concentrons pour nos enfants. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur cette sortie ? Oui.
Donc, suite à ce que tu viens de dire, là, concernant tout ce que l'on accorde à l'école, c'est très bien, c'est pour nos pitchounes, mais de mémoire, il y a beaucoup d'écoles qui, quand elles projettent des voyages comme ça, et que les mairies ne peuvent pas forcément les aider, ils s'y prennent dès la rentrée de septembre-octobre pour demander aux parents un échelonnement du montant. Alors pourquoi pas envisager de proposer ça au conseil d'école ?
Je pense que c'est, oui, c'est une réflexion, même nous, parce que dans la construction du budget, ce n'est pas forcément évident. La sortie nous avait été annoncée avant les fêtes de Noël. Après, c'était annulé, puis maintenant, ils la font. Très bien pour les enfants. Par contre, ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut qu'on travaille plus en amont et dès la rentrée, s'il y a quelque chose de prévu, il faut qu'on le prépare. Comme ça, nous, on peut préparer le budget de manière plus confortable et peut-être prendre d'autres décisions à un moment donné. Et si on veut favoriser politiquement, et c'est un réel choix, favoriser ce type de sortie, il faut qu'on voit après ce que l'on fait à côté. Est-ce qu'on peut le garder ou pas ? Le but étant de pouvoir accompagner au mieux les enfants. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on leur a demandé. Il faudra qu'on refournisse. Et c'est la même chose avec les assos. Je pense que sur le budget de subvention des projets associatifs, il faut qu'on arrive à l'avoir plus en amont pour être plus dans le dialogue avec les associations pour bien comprendre leurs projets et avancer en partenariat. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour les petits touts. Je pense qu'ils seront contents de cette sortie qui pourra être faite. C'est quand même une participation conséquente. Finances, budget principal de la commune, approbation du compte de gestion pour l'exercice 2022. Et je donne la parole à monsieur Alain Alberti.
Merci monsieur le maire. Alors, en application de l'article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, il ne peut être statué sur le compte administratif que nous allons voir ultérieurement de la commune sans disposer préalablement du compte de gestion qui est transmis par le comptable. Alors, ce compte de gestion il retrace l'ensemble des opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Tel qu'il vous est présenté ici sur ce tableau, les résultats de clôture retracés ainsi que les résultats du compte administratif conformes à la fois en section d'investissement et en section de fonctionnement. Sinon, on peut monter un petit peu le voilà. Merci, monsieur Leroux. Voilà, donc vous avez premier tableau, première colonne du moins, le résultat de clôture de l'exercice 2021 sur ces deux sections, fonctionnement et investissement. La part affectée à l'investissement au titre de l'exercice 2022. Et ensuite, le résultat de l'exercice à ce niveau-là, en investissement et fonctionnement, et le résultat de clôture. On retrouve ces chiffres. Moins 392 236,92 plus moins 122 506,83 nous font bien les 520 743,75. Pour le fonctionnement, les 2 809 888,44 moins 296 qui ont été affectés à la section d'investissement, plus 92, la fois c'est un plus, 92 636,44 font bien 2 605 882,79. Monsieur Lassoc vérifie, je crois. C'est ça, monsieur Lassoc ? Merci. Merci, monsieur Lassoc. Et le total, c'est le cumul de ces chiffres-là qui font que, en résultat de clôture, nous avons 2 085 139,04 €. Voilà, monsieur le maire, tel que présenté le compte de gestion transmis par le comptable et conforme au compte administratif.
Merci, monsieur Alberti. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Donc, délibération numéro 7, rapport de présentation du compte administratif 2022.
Alors, monsieur le maire,
comme vous le savez,
je vais vous demander de vous abstenir, de sortir de la salle.
Exactement. Et pour cela, je dois donner la présidence à monsieur Christian Bentoumi, si tout le monde en est d'accord. Et donc, je vous laisse en famille.
Monsieur Alberti, si vous voulez démarrer.
Merci, monsieur le président adjoint. Alors, tel que vous voyez sur cette première slide, le compte administratif, comme le compte gestion par le comptable du Trésor, retrace l'exécution budgétaire du 1er janvier au 31 décembre écoulé et fait état de la situation financière de la collectivité. Toutes les dépenses, toutes les recettes sont retracées. Ils englobent aussi les mouvements réels, mais aussi des engagements qui ont l'objet de rattachement et des restes à réaliser, qui n'ont pas été faits sur l'exercice précédent. Alors, on va vous le présenter. Voici le premier transparent avec cette vue d'ensemble. La section de fonctionnement, la section d'investissement. Au préalable, tout à fait en haut, on le verra plus tard aussi, c'est qu'en tenant compte des reports à nouveau existants à la fin de l'année dernière, 2021, oui, et des restes à réaliser en fin d'exercice pour la section d'investissement, le résultat global s'élève au 31 décembre 2022, donc il y a trois mois de cela, à plus de 2 141 092,80 d'euros. Le détail, vous l'avez en section de fonctionnement. Les recettes, on va les détailler prochainement. Le report 2021, un total de recettes, et les dépenses. Alors, les recettes fonctionnement, c'est toutes les recettes qui ont été enregistrées le 1er janvier au 32 décembre dans le fonctionnement de la collectivité pour un peu plus de 4 059 972,58 €. Et les dépenses, ce sont toutes les dépenses de fonctionnement sur la même période pour 3 967 336,14 €. Et là, vous avez le solde qui tient compte, bien sûr, du report 2021. En section d'investissement, les recettes sur l'année, report nous n'avions pas. Il restait par contre une somme conséquente en reste à réaliser, que je vous laisse découvrir. Ça fait un total de recettes de 1 539 09,61 €. Les dépenses, vous avez ici, avec bien sûr les reports, le reste à réaliser, il y avait aussi du reste à réaliser en investissement. Et le reste à réaliser en haut qu'on voit en recette, c'est subvention autre que nous devons recevoir. Ça se compense, plus ou moins. Vous avez le total. Et vous voyez qu'effectivement, entre les recettes et les dépenses, il y a moins 464 750,01 €. Ce qui fait que si on reprend ces deux sections, fonctionnement et investissement, 2 605 892,79 € moins... la section d'investissement, moins 464 790,01 €. Si on fait le calcul, ça fait nos 2 141 092,80 €. C'est ce qui va être reporté pour partie en section de fonctionnement et pour partie dans l'investissement. On va le voir ultérieurement. Voilà cette affectation de résultats. Vous le voyez d'ailleurs, il est précisé sur l'avant-dernière ligne. L'affectation du résultat de la section de fonctionnement devrait au minimum couvrir ce besoin, les 464 000, et le reliquat pourra être reversé sur la section de fonctionnement. Voilà pour cette première slide. La seconde, ça nous permet de rentrer un peu plus dans le détail de la section de fonctionnement. Section de fonctionnement, où là nous avons les recettes, nous avons le détail de ces recettes par chapitre. Il y a plusieurs chapitres, vous les voyez sur la colonne de gauche, 13, 70, 73, 74, 75, c'est le plus gros chapitre. et le total. Alors, la seconde, le libellé, vous l'avez. La troisième colonne, c'est la colonne du ce qu'on avait voté un budget primitif en 2022. Et la dernière, c'est le chiffre d'affaires, ce qui a été réalisé au titre de l'année 2022, pardon. Le budget primitif, les prévisions et les réalisations côte à côte. Pour vous les détailler un peu, vous donner les principaux, dans ces chiffres, les principales dépenses, recettes du moins. Les 113 846,81, c'est principalement des remboursements de personnel. Quand je dis remboursement de personnel, nous avons contracté une assurance. Et lorsque ces personnes sont absentes pour cause de maladie, longue maladie ou autre, ou maladie ordinaire, il y a une partie qui nous est reversée, sauf les charges de leur salaire. Sur les 113 000, ça fait 107 000 euros. Donc, c'est le plus gros de la troupe. Le chapitre 70, produits et services, des domaines et des ventes. C'est principalement les redevances des services périscolaires et d'enseignement pour 144 000 euros. Le chapitre 73, c'est le gros de la troupe. Hein. On verra que tout à l'heure, 3 016 arrondis sur 4 059, c'est les 74-75%. C'est les trois quarts. Là-dedans, nous retrouvons quoi ? Les impôts, on le verra en détail, mais les impôts directs pour 2 470 000 euros, les attributions de compensation pour 108 000 euros, la TCFE, c'est-à-dire la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 134 000 euros, et la taxe additionnelle de droit de mutation pour 242 000 euros. Quand on additionne ces quatre taxes, impôts et taxes, on en est à 2 954 sur 3 016, vous voyez, c'est vraiment le plus gros de la troupe. Le chapitre 74, dotations diverses, subventions, participations, 605 000. Là-dedans, on a principalement la dotation forfaitaire, 380 000 euros. Et d'ailleurs, je vous demande de retenir ce chiffre parce que je vous fais un comparatif avec les années précédentes. La DSR, c'était la dotation de solidarité rurale pour 62 000 euros. La DNP, la dotation nationale de péréquation, pour 47 000 euros. Les autres organismes pour 89 000 euros, ce qui nous fait principalement les 600 et quelques mille euros. Ce chapitre 75, autre produit de gestion courante, là c'est principalement des revenus de la collectivité, des revenus d'immeubles, de locations diverses et variées. Nous avons des locations d'immeubles, on a des locations de salles qui font que ça représente principalement ce chiffre-là. Voilà, on se rend compte que sur 4 millions, le total de 4 059 000 euros de réalisés en recettes, et je vous fais grâce des centaines d'euros, les 4 025 000, c'est vraiment le plus haut de la troupe. Le reste, c'est de l'accessoire. Les 30 376 euros en produits exceptionnels, ce sont des remboursements divers. Voilà pour ce chapitre-là. À titre de, entre nos prévisions pessimistes et nos réalisations, il y a plus de 165 000 euros globalement de recettes d'exploitation. Voilà pour ce premier tableau. Y a-t-il des questions ? Ou ultérieurement, j'y répondrai si vous le souhaitez. Les dépenses de fonctionnement. Pareil, la présentation, les chapitres 11, 12, 14, 65 principalement, le libellé, les prévisions 2022 et le réalisé 2022. Alors, on avait prévu en charge à caractère général 1 116 000, on a fait 1 115 000, on pourrait se dire, c'est bien, la prévision a été, c'est vrai que la prévision a été excellente, mais par contre, je vous démontrerai que ces charges-là ont explosé, réellement. On avait bien prévu, mais on aurait préféré se tromper encore plus, parce que je vous donnerai le détail de ces charges-là qui ont lourdement impacté nos dépenses de fonctionnement. Les charges de personnel, on avait prévu 2 329 000, on a fait 2 250 000, tant mieux. Atténuation de produits, 84 000, on est resté, on avait fait une prévision qui était très excellente. Et les autres charges de gestion courante, on était un petit peu plus haut, on a fait un peu d'économie, c'est tant mieux. Globalement, et je vous demanderai de regarder le deuxième total, qui sont les dépenses réelles de fonctionnement, 3 794 179 pour une prévision de 3 910. Bon. Je dirais c'est bien, il eût été préférable que ce soit encore moins, mais bon, on était dans les prévisions. Et le global, que nous avions vu sur un tableau précédent, 3 967 336 euros et 14 centimes, à mettre, je dirais, en comparaison avec les 4 059 000 qu'on a vu en recettes. Voilà pour les dépenses. Alors, à propos de ces dépenses, Carmen, je voudrais quand même évoquer certaines choses. C'est que, certes, nos dépenses sont inférieures en prévision à ce que nous avions prévu, et c'est tant mieux, mais je dirais qu'il faut constater que ces dépenses ont quand même lourdement affecté notre budget. Elles sont largement supérieures à celles de l'année 2021. Sur quelques postes principaux, et je voudrais les énumérer ici, la hausse du coût de l'énergie. La collectivité a eu en énergie 55 000 euros supplémentaires au titre de l'année 2022. Ça, on ne s'y attendait pas. Contrairement aux personnes physiques, les collectivités n'avaient pas, je dirais, un bouclier tarifaire. Ça nous a impacté. Donc ça, c'est l'alimentaire qui a fortement augmenté. Vous devez le constater au quotidien, hein, au niveau de vos budgets. Les fournitures diverses, les honoraires divers et variés, parce que dans les zones horaires, certes, on a les zones horaires d'avocats, d'experts ou autres, mais dans cette affectation-là aussi, on a, et je m'en suis rendu compte parce que je trouvais que les zones horaires étaient élevées, on a eu, par exemple, est-ce que c'est la bonne affectation, que ce soit là ou ailleurs, c'est pareil, c'est une dépense, on a eu à payer des procès qui dataient des années antérieures, très, très lointaines, et ça nous est arrivé en 2022. Bon, il faut bien les payer. Les assurances ont augmenté, les frais de nettoyage et la maintenance. Le tout, ça nous a fait 250 000 euros supplémentaires. C'est énorme. Et d'ailleurs, on va le retrouver ultérieurement dans l'épargne qui nous reste, contrairement aux années précédentes. Les charges de personnel, eh bien, il y a eu la revalorisation indiciaire. Il y a eu, bien sûr, comme tous les ans, et c'est normal, les avancements et les promotions classiques. La création du Val-Service, c'est un excellent. Je crois que ça sert à beaucoup de personnes. Il y a énormément de gens qui le fréquentent. C'est une réelle plus-value, me semble-t-il. Mais c'est un coût. Il y a deux personnes qui travaillent à temps plein. Et puis le point d'indice, revalorisation pour l'ensemble des agents de la collectivité au 1er juillet 2022. Voilà. Tout ça, ça a eu un coût. Et puis, je dirais aussi, il y a un coût qu'on ne voit pas tout à fait ici, mais on ne le voit pas, non. Dans le chapitre 14, atténuation de produits, c'est une charge. Là, on a eu, on le savait, mais ça, c'est la première année que nous l'avons, on a eu le prélèvement au titre de l'article 55, on avait déjà parlé, vous savez, de la loi SRU, la pénalité pour défaut de logements sociaux, 81 415 euros. Alors, moi, en tant que responsable de cette délégation aux finances, ça me fait mal au cœur, quoi. On a eu, sur 2022, entre l'élévation des charges due à un contexte, une inflation importante, ce prélèvement au titre de la loi SRU, quand j'additionne simplement le coût de l'énergie, 55 000, et les 84 000, faites votre compte, on est à 140 000 euros supplémentaires. Voilà pour ce qui est de... Ça me lamente, hein. Je me lamente en évoquant ces chiffres-là. Voilà pour ce qui est des dépenses de fonctionnement au titre de l'année 2022. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. La section d'investissement, je ne l'ai pas... Oui, si on peut la passer, Monsieur Leroux. Est-ce qu'on la voit suffisamment? Là, nous avons les recettes d'investissement telles que nous les avons retracées comptablement, à la fois sur le budget primitif 2022, mais surtout les titres émis et le reste à réaliser. Ça rentrait dans le détail, je ne le vois pas très bien. Oh, vous le voyez bien, le tableau?
Oui, ça va.
Voilà. On est sur les recettes. On ne va pas l'agrandir. Les recettes que nous exprimons, c'est à la fois des subventions d'investissement, ce sont des dotations diverses et variées, c'est aussi des opérations d'ordre. Je voudrais mettre entre parenthèses le chapitre 42, l'avant-dernière ligne, 173 156, et ça fait partie de cette section-là, ce sont les dotations aux amortissements que nous devons faire figurer. Il n'y a pas de décaissement effectif, mais une constatation comptable que nous avons ici. Voilà pour ce qui est de ces recettes. Un mot aussi sur le montant de 185 520 dotations fonds divers. Ça comprend principalement deux lignes. Un, c'est le remboursement du FCTVA. Vous savez, la TVA, nous la payons et on nous rembourse une partie. Pas l'intégralité, mais une partie, les trois quarts à peu près. Et puis aussi la taxe d'aménagement qui fait presque 50 000 euros. Donc on a à peu près 50 000 euros de taxe d'aménagement, Christian, et 136 000 euros, ce qui nous fait les 185 000 euros de dotations diverses. Voilà, nous les retrouvons à ce niveau-là. Et puis, aucun emprunt n'a été contracté, on le voit, au titre de l'année 2022, à ce titre-là. Voilà pour ce tableau. Et pour ce qui est des dépenses d'investissement, la présentation est un peu différente. Voilà, à la fois les dépenses d'investissement, opération par opération, avec par programme, et ce qui nous reste à réaliser aussi, opération par opération. Alors, je ne sais pas si je vais les lister, vous les avez ici, le domaine de la piscine, la vidéosurveillance, l'aire de camping-car, la réfection des toitures que nous continuons, différents engins véhicules que nous renouvelons ou autres, la salle des fêtes, les travaux d'études, le patrimoine, ça c'est l'espace muséal, le val-service, les parkings, le foyer, le PLU, et ainsi de suite. Ça, ce sont les dépenses d'investissement par programme, et dans ces dépenses d'investissement, tout n'a pas été réalisé, il en reste, et où nous avons sur la partie droite, le reste à réaliser par programme à ce niveau-là. Dernière colonne, les dettes, les dettes financières. La commune s'est désendettée un peu plus de 211 000 euros cette année. C'est uniquement le remboursement en capital de la dette qui fait que notre dette diminue au fur et à mesure s'il n'y a pas de nouvel emprunt. Ça, c'est le chapitre 16. Oui, voilà. Voilà, en conclusion, le compte administratif, comme le compte de gestion, présenté comme faisant la mise en œuvre des objectifs du mandat rappelé dans les orientations budgétaires que nous avions vues au mois de mars, le mois dernier, et inscrit comptablement dans le budget primitif. Voilà, monsieur le premier adjoint.
Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à monsieur Alberti? Bon, en tout cas, on vous remercie pour cet avalanche de chiffres. On sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on n'en aura jamais assez.
Je me suis évertué à ne pas donner trop de chiffres, mais il y a quand même des chiffres incontournables à annoncer, les plus importants. Voilà. Sachant que, de toute façon, ces chiffres-là, pour ceux qui le souhaiteraient, il y a la possibilité auprès du cabinet du maire d'avoir l'intégralité des chiffres en dépenses et en recettes d'exploitation et de fonctionnement et d'investissement.
Il n'y a pas de questions? Bon, on va procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité. Oui. Si on veut bien aller chercher monsieur le maire.
Oui, bravo.
Bravo monsieur le DGS.
Il y a aussi bien sûr les travailleurs de l'ombre.
Oui. Voilà. Monsieur le maire.
Donc on est à la délibération numéro 8, si c'est bien ça. Budget principal de la commune, affectation du résultat de clôture exercice 2022. Et je redonne la parole donc à monsieur Alain Alberti.
Merci monsieur le maire. Alors, l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit l'affectation du résultat de clôture de l'exercice comptable, qu'on a déjà un petit peu entrevu. Ce résultat, en 1, il est affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, tel qu'on vient de le voir. c'est les fameux 464 790 euros et 1 centime d'euros qu'il convient d'affecter prioritairement, tel que le tableau vous le montre. Et ensuite, je dirais, l'affectation autre de ce résultat, vous l'avez en tout dernier, après je passerai la parole à monsieur le maire. On a vu que le résultat 2022 en cumulé est de l'ordre de 2 605 882,79 €, qu'on va affecter au poste 1068 qui couvre la section d'investissement pour le montant que l'on vient de voir, et l'excédent, le reste, ça va passer en excédent de fonctionnement reporté pour, on l'avait vu aussi, 2 141 092,78 €. Monsieur le maire, la parole est à vous.
Merci. Avez-vous des questions sur l'affectation du résultat? C'est le trésor de guerre, en fait. Hein.
C'est le trésor de guerre.
Ouais. Bien.
Et qu'il convient, si l'on peut, de le booster encore un peu.
Ça va être tout l'objectif. Compliqué aujourd'hui, justement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Délibération numéro 9. Vote du taux des taxes communales exercice 2023. Et je redonne la parole à monsieur Alberti. Vous allez faire le conseil, monsieur Alberti, finalement.
Je m'en passerai parfois. Merci, monsieur le maire. Alors, le Code général des impôts prévoit que le vote des taux de fiscalité locale doit faire l'objet d'une délibération spécifique, distincte du budget primitif. C'est celle-ci. Alors, oui, un petit nota béné, c'est qu'à partir de 2023, les communes recouvreront le pouvoir de voter la taxe d'habitation sur résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Voilà. Ainsi, la délibération de vote des taux doit impérativement aussi concerner cette fameuse taxe, en plus des taxes foncières. Alors, les taux 2023 ne changent pas et sont donc les suivants, tels qu'on les avait vus en 2022. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 35,48%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 96,04%. Et taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 12,65%. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Avez-vous des questions? Il n'y a pas d'évolution particulière, en fait. Oui, monsieur Courdouin.
Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on taxe plus les Valois que les gens qui habitent ailleurs et qui profitent d'un logement secondaire qui sont, du coup, on va dire, entre guillemets, plus aisés. Si je comprends bien ce que ça veut dire, les résidences secondaires.
Mais je laisserai monsieur le maire répondre, mais déjà, moi, sur un plan comptable, arithmétique tout simple, si on taxe les propriétés bâties à 12,65 comme... la taxe sur résidence secondaire. Donc, ça nous fait 23% de moins. 23%, c'est je vous ai évoqué tout à l'heure que les impôts directs, c'était 2 470 000 euros pour 35%. Alors, pour 12%, vous diminuez d'autant, vous voyez ce qui vous reste. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de fonctionner.
Toi, tu parles dans le sens.
Évidemment, moi, j'habite au Val, je paye des taxes, donc je préférerais qu'elles baissent. Mais je suis aussi élu et je sais qu'on a besoin d'argent. Mais moi, par souci de justice, déjà, je trouve ça enfin logique que des gens qui habitent à la base à Paris, en Belgique ou où que ce soit, qui ont une maison secondaire au Val, payent au moins autant que nous.
Alors, la question, peut-être votre question était dans ce sens-là, à savoir pourquoi de 12,65 on ne passera pas à 35,48.
Je pense que c'est logique.
La question est ouverte.
D'avoir deux maisons... surtout sur la côte, avec une piscine qu'on ne peut pas remplir, mais qui remplissent quand même. Je pense qu'on peut leur demander une petite participation pour qu'ils aient des routes pour rouler avec leur belle voiture, non ?
Alors, sur cette question-là, je réfléchis en même temps. Hein, j'essaie je pense qu'il y a déjà, c'est une raison historique. Et la seule raison... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une taxe associée, il y a un service public qui est alloué. Quand c'est une maison secondaire, normalement, c'est qu'on n'habite pas toute l'année. Si on habite à l'année, ça devient une résidence principale. Donc si on n'habite pas à l'année, on est moins consommateur de services publics, donc c'est peut-être pour ça que historiquement ça avait été calculé comme ça. Et ça permettait d'avoir des pouvoirs d'achat aussi, puisque les gens qui viennent en général en vacances dans les maisons secondaires sont plutôt des personnes plus aisées, donc c'était peut-être une stratégie parce que je crois savoir que cette répartition des taxes entre résidence principale et secondaire et cet écart qu'il y a, il est présent sur l'ensemble des communes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder, comme on l'avait fait pour le foncier, de regarder ce qui se fait ailleurs pour bien comprendre les éléments. Oui. Et oui. Quand on, je comprends l'idée de dire ça peut être une ressource financière intéressante pour la commune, mais après, il y a un esprit de justice entre la contribution liée à la taxe et ce à quoi on peut prétendre en termes de services publics et de péréquation aussi. Parce qu'en général, plus on a un bien élevé, plus on paye, puisqu'on contribue plus pour ceux qui ont moins. C'est le principe de la République. Nous parlions de Marianne tout à l'heure. Je pense que c'est important.
Puis il y a une différence aussi sur les résidences principales. C'est une taxe foncière. Là, c'est une taxe d'habitation.
C'est en plus. Ah oui, pardon, oui. Et ça, c'est l'exonération. Alors ça, oui, pardon. Voilà. Alors, je peux répondre. Ça y est, je peux relier la chose.
Là, voilà.
Il y a le foncier. Aujourd'hui, il n'y a plus que le foncier pour les résidentiels,
oui.
Les habitants. Et ça, c'est le président de la République qui a supprimé la taxe d'habitation. Ce au passage, je trouve qu'il n'est pas juste. Pour les habitants, c'est bien. Mais finalement, on vous rattrape ailleurs. Donc, vous payez de l'autre côté. Et moi, je trouve ça très bien que l'habitant contribue aux missions de service public. Parce que lorsque je suis un habitant non propriétaire, seulement locataire, je ne contribue pas, puisque je loue, donc je n'ai plus la taxe d'habitation, et donc je ne contribue pas aux services publics pour lesquels je peux prétendre. En gros, je suis bénéficiaire de Leval Service, je viens à la mairie, mais comme je ne fais que louer, ben je ne participe pas à la vie de la cité. Et il y a eu une partie, donc ça c'était les 80% d'exonération, et après ils avaient, sur les taxes d'habitation, ils avaient laissé uniquement les taxes d'habitation pour les maisons secondaires. Donc c'est additionnel. Par contre, il y aurait une taxe qu'on pourrait rajouter, un taux différent. Ça, c'est une réflexion qui se fait dans pas mal de communes qui subissent des phénomènes de paupérisation. C'est les logements vacants. Lorsqu'on a un logement vacant, il n'est pas forcément considéré comme une résidence secondaire puisqu'il n'est pas habité à l'année. Et là, c'est les maisons abandonnées, en fait, dans les trois quarts dans le centre du village et qui posent des problèmes après d'écroulement par la suite. Certaines communes font le choix d'augmenter le taux pour ces habitations-là. Ce qui a pour vocation, en général, soit la réhabilitation immédiate du bien et la mise en location. Et là, on rentre dans une offre en termes d'habitation pour le village. Ou sinon, la mise en vente du bien pour qu'il soit réhabilité par la suite. Donc, pour bien résumer... la taxe foncière, elle est payée par tout le monde, pour du bâti, non bâti, et seuls les propriétaires de résidences secondaires, aujourd'hui, payent la taxe d'habitation, puisque maintenant, elle est totalement exonérée pour tous les habitants, quelles que soient leurs ressources, à ce jour. Et oui, c'est le luxe d'avoir une maison...
ce que tu demandes,
ça existe déjà, oui. Corinne ?
Oui. Tu évoquais le cas des maisons non occupées, mais à qui profite la TLV, la taxe logement vacant? Parce que nous, personnellement, moi, titre perso, je l'ai payé pendant des années. La TLV, c'était la loi... Oui.
Il faut regarder maintenant ce qui est en place, en vigueur. Mais en tout cas, il y a une partie qui va à la commune, de toute façon. Voilà. Mais maintenant, avec tous les transferts d'agglo, etc., il faut regarder les choses. Mais en tout cas, c'est un des leviers d'action qu'on a pour activer. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'en termes d'urbanisme, on soit prêt aussi à accompagner les projets. Parce que le but étant, ce n'est pas d'avoir 20 milliards de divisions et donc l'activation des marchands de sommeil. Donc c'est un projet qui se réfléchit sur du long terme. Ce n'est pas immédiat, mais c'est des possibilités qu'on pourra travailler par la suite. Monsieur Lefebvre.
Quand on voit ce que nous coûte l'amende, c'est autour de 80 000 euros, c'est ça? Donc il y a vraiment une réflexion à avoir à ce sujet.
Oui.
Parce que les gens, le but, ce n'est pas spécialement de les taxer davantage, mais s'ils sont taxés davantage, pour autant, ils vont essayer d'avoir une rentabilité par rapport à leur location et peut-être plus motivés à louer leur propriété. Voilà. Parce qu'effectivement, ils profitent aussi des infrastructures de la commune, et par rapport à ça, il y a une injustice. Et les injustices, on peut les lever que par l'impôt, malheureusement.
Si c'est calculé de manière équitable. Monsieur Alberti, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, mais effectivement, il y a une réflexion à mener, effectivement, à la fois là-dessus, sur cette taxe sur résidence secondaire, taxe sur le logement vacant.
Vacant, oui.
Effectivement. Et avoir, effectivement, comme on dit, monsieur Lefebvre a évoqué la pénalité, le prélèvement qui nous est, c'est un prélèvement qui nous est fait, donc ça veut dire qu'à la source, c'est comme l'impôt sur le revenu, hein, c'est prélèvement à la source, hein, des 81 000 euros, c'est pour une autre commune, c'est important. Et d'ailleurs, je crois savoir que ça met en difficulté certaines communes pas loin de chez nous.
Qui sont dans le rouge, là. Qui sont dans le rouge, du coup.
Oui. Oui.
Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité. Et merci, Steve, d'avoir lancé le débat. Délibération numéro 10. État annuel donc des indemnités allouées aux élus. Donc vous avez le tableau des différentes indemnités qui sont allouées en fonction du vote que nous avons réalisé le 16 septembre 2022. Et vous avez le montant en fonction du point d'indice de la fonction publique, tel qu'il est appliqué depuis juillet de cette année. Si vous avez des questions sur la répartition, c'est ce qui a été voté et c'est ce qui est proposé de reconduire. Pas de commentaires ? Bon, qui est contre ? Qui s'abstient donc à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11, rapport de présentation du budget primitif 2023. La part importante de ce conseil de ce soir, qui est quand même l'activation de la vie après des projets qu'on peut réaliser et le fonctionnement de l'administration communale. Monsieur Alberti, c'est à vous.
Merci, monsieur le maire. Alors, présentation générale de ce budget primitif 2023. Alors, conformément à ce qui avait été annoncé lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire du 9 mars de cette année, je veux dire que l'élaboration de ce budget primitif 2023 s'appuie sur un triptyque. Une contraction régulière et continue des dotations de l'État, et je vous en présenterai des éléments précis, et cela depuis plusieurs années. La poursuite des travaux d'investissement que nous allons examiner, et nous n'aurons, sauf pas de recours, a priori pas de recours à l'emprunt. Voilà le triptyque principal de ce budget primitif. Or, comme vous le voyez, un peu plus de 10 millions d'euros entre les dépenses et les recettes, en équilibre bien sûr, à la fois en section de fonctionnement et en section d'investissement. Alors, la section de fonctionnement, je vais peut-être me servir de ça. Là. Je l'avais, puis je ne m'en suis pas servi. Voilà. La section de fonctionnement, comme indiqué, voilà, 6 233 000 avec les restes 2022, donc 4 091 000 que nous avons ici, de recettes propres à l'exercice et les 2 141 000 que nous avons vus précédemment de clôture et de retard de fonctionnement reportés. Alors, les chapitres, on a toujours les mêmes, atténuation de charges. Je vous l'ai dit, ça concerne les remboursements principalement du personnel malade. Voilà. On est resté à peu près voyez ce qui s'est passé les années précédentes. En produits et services domaine, on est sur la même tendance, assez prudent, en espérant qu'on ait une année normale, sans à-coups. Les impôts et taxes, une légère augmentation, parce que sans que nous touchions les taux, naturellement, comme les bases sont réévaluées par les services fiscaux, il y aura une petite élévation. Le chapitre 73, c'est le plus gros, hein, voyez, regardez, par rapport à ça, c'est du 75% tel qu'on l'avait déjà vu. Le chapitre 74, dotation, subvention, participation, voilà, 598 000. Et là, tout à l'heure, je ferai un détail de ce chapitre-là. Les autres produits de gestion courante, ce qu'on avait eu, vous savez, c'est principalement nos locations diverses et variées qui abondent ces recettes-là. Le total en recettes de gestion courante, et en recettes, surtout celles-ci qu'il faut regarder, les recettes réelles de fonctionnement, 4 087 757. Voilà. Et avec quelques opérations d'ordre, voilà, on est sur ce montant-là, tel que nous l'avions vu ici, plus le résultat reporté de 2 141 000, on arrive à 6 233. Voilà pour ce qui est des recettes. On va d'ailleurs sur ouais, c'est celui que je viens d'évoquer, chapitre 23, les atténuations de charges, voilà, le 70, les produits et services, et le 73, c'est la grosse partie du camembert, là, 75%, où là, nous avons les impôts directs et les impôts indirects. Et d'ailleurs, on va le voir sur la loi, la transparence suivante, vous l'avez, taxe sur le foncier bâti, le non bâti et résidence secondaire, voilà. Voilà le montant approximatif espéré sur l'année 2022. Et là, nous avons... Alors, ce chapitre-là, c'est le direct fiscalité et l'indirect. L'indirect, c'est ça. C'est à la fois les attributions de compensation, elles sont là, en bleu. La dotation de solidarité communautaire, elle est là. La taxe sur la consommation finale d'électricité, elle est là. Et les droits de mutation sont là. Alors, volontairement, alors celle-ci, on ne se trompe pas parce que c'est un versement mensuel immuable et qui n'augmente pas, il est là. Celle-ci aussi, nous la connaissons, elle a eu une augmentation. Il n'y a que ces deux taxes-là où, ici, l'année dernière, on a perçu 242 000 euros. On a préféré se tenir sur les années antérieures. Je pense que l'année 2022, parce qu'on a toujours une année d'écart, décalage, les droits de mutation sur les ventes immobilières en 2022, je pense que les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés encore, ça devrait pouvoir le faire. Donc je pense qu'on a mis 160 000, nous aurons un peu plus. Et après ça, c'est la taxe sur la consommation vitale d'électricité, on a préféré se maintenir à un montant, je dirais, modeste. Voilà, on a préféré minimiser nos recettes à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est de la fiscalité directe et la fiscalité indirecte. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, où je voudrais quand même intervenir, j'interviens là un peu plus fortement, c'est sur ce chapitre-là, le 74, qui est quand même un poste qui, quand on l'a vu, ça fait quand même 600 000 euros, tout compris. Vous avez ici de 2016 à 2023, les estimations, oui, que ça sécrète. Mais moi, je me suis permis de regarder la mandature précédente, à savoir en 2014. En 2014, si je peux faire circuler, si vous le souhaitez, les éléments. En 2014, la dotation forfaitaire, 638 000 euros. En 2023, à venir, mais 2022, pardon, 378 000. Ouais, un petit peu, là. Ça fait mal. Et quand on parle globalement, dotation, vous voyez, 378, ça, c'est les deux, la DNP, la péréquation et la rurale, on arrive à quoi? On arrive à pas tout à fait 500 000 euros. Pas tout à fait 500 000 euros, alors que précédemment, en 2014, nous étions exactement à 690 000 euros. Donc, vous voyez que notre difficulté, mais pas que nous, toutes les collectivités, c'est que les dotations étatiques baissent fortement et malheureusement, les charges ne baissent pas. Vous le voyez, elles augmentent et d'une manière exponentielle pour certaines dépenses. Voilà. Je voulais vous présenter ça pour vous dire que, vous voyez, l'écrêtement... Mais si on prend 2014, c'est encore pire parce que le tuyau d'orgue était beaucoup plus élevé. Voilà. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, le BP 2023, ce qui a été réalisé, le BP 2022, ce qui a été réalisé et ce que nous projetons. Alors, on a tendance, et il faut minimiser nos recettes et tenter nos dépenses de les majorer un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, vous le regardez, quand on regarde, vous voyez ici, en dépenses réelles de fonctionnement, ce que nous avions projeté, ce qui a été réalisé. Voilà ce que nous projetons, en espérant qu'on réalise beaucoup moins. Voilà. Alors, il y a une
ce que tu dis, en fait, ta méthode, c'est la prudence.
Oui, bien sûr.
Équilibrer et d'être prudent au cas où, et ça, ça fonctionne.
Et puis, ça permet, vous savez, les effets d'annonce comme ça, quand on met des dépenses importantes, c'est pour, ça a un effet de... Enfin, ça marque les esprits, se dire, attention, voilà, minorons. Mais on se doit de minorer, parce que si on ne minore pas, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Alors, voilà pour les charges de fonction à caractère général. On est à peu près sur la même tendance que ce qui a été réalisé. On augmente ici assez fortement sur la charge de personnel. Et je dirais parce que j'ai des, malheureusement, des animations de vacances, les remplacements de maternité que nous connaissons, la rétroactivité longue maladie, les avancements, des provisionnements parce qu'on a des collaborateurs où on sait qu'effectivement on va être tenu de passer à la caisse, des cotisations de chômage contractuellement, tout ça, je dirais, j'ai une liste ici qui fait qu'on se permet de, et on préfère, je dirais, projeter un tel montant pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année de 2023. Atténuation de produits, ben là, c'est notre pénalité. Hein. On va rebelote, je pense, pour 2023. On ne va pas y couper. Et les autres charges de gestion courante, voilà, qui restent à peu près, qu'on a légèrement augmenté en termes de prévision pessimiste. Le total, vous l'avez ici. Les charges financières, là, on sait qu'effectivement, il n'y aura pas de mauvaises surprises, donc on peut se permettre, parce qu'on les connaît à l'avance. Charges exceptionnelles, comme son terme l'indique, c'est de l'exception. L'exceptionnel, ça, on ne sait pas trop, à voir. Voilà donc nos dépenses réelles de fonctionnement telles que nous les verrions. Et vous avez ici les montants sur les virements à la section d'investissement, aux opérations d'ordre entre sections. Là, celle-ci, on l'avait déjà vue, ce sont principalement les dotations aux amortissements. Voilà, pour un global de 6 233 000 en dépenses, qui est identique à celle des recettes de fonctionnement. Voilà pour ces dépenses de fonctionnement. Alors, si on peut se tromper, on espère se tromper, qu'elles soient moindres, ça ne sera pas plus mal. Vous avez ici, en forme de présentation de camembert, je ne sais pas si ça fonctionne encore, voilà. Le gros de la troupe, c'est les dépenses de personnel. Pour rappel, nous étions à 64%. Lorsqu'on a pris la collectivité en dépenses de fonctionnement, c'est trop élevé. 60, ça allait encore un peu trop. Mais on voit qu'au fur et à mesure, on arrive à revenir à des ratios un peu plus normaux.
Il y a deux choses. Ouais, on a pris le chemin quand même, parce que 4 points, c'est pas rien. Et après, c'est toujours pareil, c'est un ratio. Et le ratio, il dépend de ce qu'on met dedans.
Oui.
Donc des recettes. Et quand les recettes diminuent, eh bien, ça dégrade la valeur du ratio lorsqu'on a des dépenses constantes. Donc il faut vraiment, on en avait parlé lors du débat d'orientation budgétaire, il faut qu'on continue à viser l'amélioration de ce ratio et surtout qu'on travaille sur les recettes et qu'on suive aussi les charges du personnel. Et je le dis pareil, c'est le même coup de gueule que la dernière fois sur les abus. Ils sont dans leurs droits, certains, mais moralement, c'est pas admissible d'abuser d'argent public. Voilà. Ça, je le redis, je l'avais dit et je le pense toujours.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, on se doit continuer, je dirais, à faire baisser ce chiffre-là parce que c'est d'autant de dépenses en moins. La section d'investissement, à hauteur de 4 066 000 euros, dont vous avez ici le détail, avec toujours pareil, les restes à réaliser. D'une année sur l'autre, il y a toujours des restes à réaliser. On n'arrive pas à clôturer complètement. Les subventions accordées, le fonds de compensation de la TVA, ça c'est une estimation, taxes d'aménagement aussi, opérations d'ordre patrimonial, l'affectation de résultats, vous avez vu que tout à l'heure on avait dit, sur les 2 605 000, il y avait 2 141 000 qui partaient en section de fonctionnement et 464 790,01 en section d'investissement. Voilà. Voilà, pour un total de 4 066 000 euros je passe assez rapidement là-dessus, sur ces recettes-là. On a le détail ici. Les dépenses d'investissement, on comprend toujours les restes à réaliser, les propositions nouvelles, les opérations d'ordre et le solde négatif qu'on a reporté, qu'on a vu tout à l'heure, de 520 753,75 €. Voilà les dépenses d'investissement telles qu'ils se présentent. Et on a d'ailleurs à ce propos, sur la prochaine, voilà, vous l'avez ici par opération, voilà, les différentes opérations et les montants.
Ce sont les montants, monsieur Leroux, qui sont
ces montants-là. C'est le détail.
En bleu, c'est les restes à
réaliser. Les en bleu, vert, voilà, mais on voit pas trop, comme on voit pas trop les. Voilà. En vert, ce sont les.
Pardon ?
Voilà. D'accord. Voilà. Et vous avez chaque fois les tuyaux d'orgue avec, je dirais, les montants qui sont qui figurent. Effectivement, là, vous voyez que la salle des fêtes, c'est le montant le plus significatif. Voilà. Hein. Les acquisitions aussi. On se réserve le droit de faire certaines acquisitions si elles sont effectivement très intéressantes pour la commune. Ne pas les laisser passer. Donc, vous avez ici tout le détail de toutes les opérations avec ce qui est déjà en cours et ce qui reste à réaliser. Ici, on a le patrimoine. Les parkings aussi, les parkings sont par là. Ici, là, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Trop de parkings qui sont ici. Globalement, d'une année sur l'autre, nous avions pris comme mesure de dire sur les parkings, la voirie aussi. La voirie, on consacre 100 000 € tous les ans à la réfection des voiries. Certaines méritent plus que d'autres, mais donc d'essayer d'en faire le maximum. En fonction, bien sûr, de nos possibilités.
C'est un budget quand même conséquent, 100 000 €, mais quand on voit le coût que ça représente, finalement, on ne fait pas beaucoup à chaque fois.
Et, oui.
Et donc, c'est de la patience, parce qu'on a un retard à rattraper, mais on y arrive au fur et à mesure.
Sur ce, là, on voit, je regardais sur les écoles, effectivement, là, c'est un peu la fin des travaux, quoi, fin de tout ça, parce que sur les écoles, sur les dernières années, il y a eu effectivement des travaux significatifs, à la fois au niveau de la rénovation des écoles, les travaux énergétiques, la désimperméabilisation, les tableaux numériques. Effectivement, les écoles ont été l'objet, je dirais, de notre part, d'investissements significatifs depuis plusieurs années. Voilà. Et globalement, oui, c'est plus d'un million d'euros qui ont été consacrés aux écoles, absolument. Un des derniers transparents, c'est le remboursement de la dette, du capital de dette, qui figure bien sûr en dépense d'investissement pour la partie capital. La partie financière rentre en fonctionnement. Et vous avez ici le niveau du désendettement de la commune. Quand on dit un désendettement de 217 000 euros, c'est 217 000 euros de remboursement en capital. Avec les intérêts, ça fait un peu plus. Ça veut dire qu'on se désendette régulièrement. Et quand on le compare, quand on s'en compare par rapport à d'autres communes de même strate, l'endettement de la commune par habitant, par tête d'habitant, n'est pas très élevé chez nous. Pas très élevé. Voilà, donc vous avez le désendettement qui est présenté. Alors, en conclusion, le budget préventif 2023 présenté est conforme aux orientations que nous avons présentées lors du débat d'orientation budgétaire en date du 9 mars dernier, et confirme, je dirais, les objectifs que nous portons depuis quelques années.
Merci, M. Alberti. Y a-t-il des questions suite à la présentation, ou des remarques, ou des... Oui. M. Lefebvre et M. Courdouan.
Oui. Moi, déjà, pour saluer le travail qui a été fait par Alain, et puis c'est surtout cette mesure de prudence qui est de ne pas optimiser, enfin, tirer vers le bas les recettes et d'augmenter les dépenses. Normalement, on devrait avoir que des bonnes surprises. Et puis, on sait aussi que si on a des bonnes surprises, ça permet d'absorber éventuellement un budget supplémentaire en cours d'année. Parce qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, on ne sait pas l'électricité, comment ça va augmenter. On sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une bonne mesure. Voilà. Merci.
Effectivement, l'incertitude qui plane sur nos collectivités, c'est le coût de la vie, comme tout un chacun, hein, dans leur budget personnel. C'est les dépenses d'énergie qui sont très élevées, énergie, toutes sortes d'énergie. C'est cette fameuse pénalité que nous avons, que nous n'avions pas. Tout ça vient gréver nos budgets. Et on se doit d'être extrêmement prudent, de faire très attention et de faire des économies le plus possible. Le plus possible. On n'a pas le choix.
J'avais aussi une question à te poser, Alain. Je n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure. Quand tu parlais de 55 000 euros d'électricité supplémentaire, mais combien il y avait l'année passée, enfin, il y a 2 ans? C'est 55 000 de plus par rapport à quoi?
Oui, oui. Voilà. Exactement, je peux vous donner les chiffres. Je les ai.
Si c'est 100 000, c'est un peu.
Pas vous dire de bêtises. Je les ai.
Alors, en attendant, et je pense que la stratégie qu'on a adoptée, c'est quand on a identifié les 3 postes qui peuvent évoluer en termes de hausse, c'est le coût de la vie, bon, ça, on n'a pas trop la main dessus directement. L'énergie, on a la main dessus, c'est d'être le plus autonome possible, et donc c'est économiser la consommation et en même temps en produire. Donc ça va être les programmes d'investissement qu'on va faire par la suite.
Les chiffres exacts. Énergie, le poste 6612 pour les techniciens de comptabilité des collectivités. 110 797 euros en 2021. En 2022, le même poste, 165 493 euros.
55%.
55 000 euros de mieux.
C'est ça.
55 000 euros de mieux. 82 000 euros de taxes, de prélèvement. Faites votre compte, SRU, on est à 140 000 euros.
Donc,
et ces 140 000 euros, on le verra ultérieurement, nous manquent dans notre épargne.
C'était le bout de gras qu'on a.
Et on n'est pas à la merci, ça augmente encore.
Donc la question de l'énergie, nous on a travaillé avec Simelec, là, il y a une réunion il n'y a pas très longtemps. J'ai envie de dire, dans notre malheur, le coût de la hausse de l'énergie reste inférieur à ce que les d'autres collectivités ont, puisque nous on est un groupement d'achat. Et ça a permis de limiter la casse, puisqu'il y a certaines hausses pour certaines communes, c'est 150%. Nous, c'est 50%. C'est quand même conséquent, mais c'est beaucoup moins qu'ailleurs. La question, c'est au moment du renouvellement du contrat du groupement d'achat, qu'est-ce qui va être négocié? Et donc là, on a bien compris l'enjeu, et donc la décision qui est prise, c'est de regrouper notre groupement d'achat avec d'autres groupements d'achat pour être encore plus gros. Et plus on est gros, plus on pèse en termes sur le marché. Et à ce moment-là, ça nous permettrait de limiter la casse. Mais je ne peux pas dire encore quelle hausse on subirait dans les années à venir.
Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de couper l'électricité la nuit dans le village, ou c'est uniquement symbolique?
Il nous faut encore un petit peu de mesure, parce que tout ne fonctionnait pas, n'était pas activé. On a besoin d'un peu plus de délai pour pouvoir le mesurer, mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. Et donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, donc c'est pour moi, le coût de la vie, ça, on ne va pas pouvoir y toucher. Par contre, le paramètre de la production et consommation d'énergie, c'est un axe qu'on a identifié. Et éteindre la nuit, ça en fait partie. Et le troisième élément, c'est l'amende SRU. C'est le travail qu'on fait à l'échelle du PLU, de pouvoir nous donner des possibilités de mieux répondre à la loi et donc de nous soustraire à cette obligation que l'on subit aujourd'hui en termes de dépenses liées à l'amende. Donc voilà, donc on a bien identifié les éléments, c'est un héritage. Maintenant, il faut qu'on se mette en avance pour le faire et on subit en même temps la question de l'énergie, comme tout le monde. Bien, s'il y a... Steve ?
Moi, c'était juste pour la pénalité SRU, juste me rappeler succinctement ce qui se passe, en fait, parce que j'ai compris que c'est une pénalité par rapport au manque de logement, c'est ça ?
C'est ça, le sociaux.
Sociaux, de logements sociaux, ouais. Et je sais qu'on fait des acquisitions et que du coup, on paye du coup double, voire triple, en fait, à cause de cette pénalité. Peut-être que je rêve un peu, sûrement, mais on ne peut pas négocier sur plusieurs années pour pouvoir faire les travaux.
C'est ma grosse colère envers l'État aujourd'hui. C'est justement, ça avait été, j'avais réussi à négocier les premières années quand on a été élu. Malheureusement, le ministre de l'époque, lorsqu'il a fait la deuxième... C'est des périodes triennales, en fait. C'est tous les 3 ans, et on révise la position. Et nous, on avait vu que le PLU actuel ne permettait de sortir aucune opération à cause des SMS qui ne sont pas réalistes, par exemple. Et donc, sur le papier, le PLU Duval était exemplaire aux yeux de l'État, disant vous pouvez atteindre les 25%, les pourcentages demandés en termes de progression. En réalité, on voit très bien que sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Donc ça, on l'a fait valoir. Et de l'autre côté, on a fait valoir qu'on est en train d'acheter. On a acheté plusieurs maisons et qu'il faut un certain temps après pour pouvoir les mettre en état de location et les conventionner. Donc ça c'est monté. Le préfet avait acquiescé, avait défendu notre dossier qui est monté à Paris. Et à Paris, c'est redescendu. Toutes les communes du département du Var ont été soumises à la loi SRU. Et je pense que Paris a voulu sanctionner le Var, département qui est mauvais élève sur cette thématique. Et donc, en fait, ils se sont payés les communes du Sud. Voilà, pour être clair. Donc, moi, je trouve que c'est très injuste parce qu'on a des démarches, on fait valoir. Pour moi, on paye plus parce que l'acquisition qu'on a fait d'un côté, on va pouvoir la faire valoir par la suite. Et c'est tout l'enjeu des programmes qu'on prépare à l'avenir. Et j'insiste encore, sur le logement social, ce n'est pas synonyme de cas sociaux. Beaucoup de Valois, et là je me retourne envers le CCAS, qui gère les listes d'attente, sont en demande de venir au Val, habiter, des habitants du Val qui veulent des logements au Val. Mais encore faut-il que nous, on s'assure au niveau des attributions qu'on ait la main. Parce que l'État, d'un côté, nous met des amendes, de l'autre côté, a la main sur l'orientation, sur l'attribution des logements. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir parler. Et donc ça, nous, on a réussi à négocier, à avoir un gros potentiel d'orientation pour les logements, pour les Valois. On a constitué les listes. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et en plus, on conventionne avec l'armée. On a rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur pour aussi proposer des logements sociaux pour les militaires, puisqu'ils en ont aussi besoin. Je rappelle que 70% des habitants du département du Var sont éligibles aux logements sociaux. Mais on n'a pas le luxe au Val comme certaines communes du littoral, puisque tu parlais des habitants du littoral. La loi SRU, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Nous, au Val, ça fait pas longtemps qu'on est sous son régime ou sous son action. Enfin, en tout cas, qu'on en subit les conséquences. Mais par contre, les communes du littoral, ça fait 10 ans qu'elles y sont dedans, mais comme elles ont beaucoup d'argent, elles peuvent se permettre des amendes beaucoup plus importantes de ce qu'on a. Et donc, je pense que c'est ça qui a agacé l'État au sens général, en disant le Var fait zéro effort, et nous, on est arrivés les derniers à rentrer dans le paquet, et puis on fait partie du lot, comme l'ensemble des communes de l'agglomération de la Provence verte. C'est ce que nous, on a voulu faire valoir, puisque quand j'ai vu la chose arriver et que j'ai compris que le vent allait tourner, on a voulu faire valoir des acquisitions financées par le département en disant, regardez le plan de financement qu'on propose, cet argent-là, on l'injecte dans des programmes, mais la loi, il regarde, il dit, ah oui, ça compte pas, nous, on regarde le passé. C'est l'aberration de l'administration et de la vision bureaucratique. Et voilà. Et en fait, la réalité, c'est une façon de donner moins d'argent aux communes parce que ben, l'État fait comme nous, il cherche les sous. Voilà. Et la seule grande différence qu'on a, c'est que nous, on a l'obligation d'équilibrer nos comptes. Et on le fait comme des grands garçons. L'État, non, quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est un réel problème. Mais voilà, donc là, il faut vraiment qu'on puisse avancer de ce côté-là, et c'est la nécessité de révision du PLU, c'est permettre des logements sociaux, mais bien les penser pour bien les intégrer. C'est ça, la clé, elle est là, à mon sens, et il faut qu'on montre qu'on va dans une démarche, mais on prend le temps aussi de faire les choses bien. Parce que bon, faire plein de logements sociaux pour des gens qui ne sont pas du Val, ils font quoi? Ils travaillent où? Ils se déplacent comment? Quels services ils ont, etc. C'est tout ça qu'il faut intégrer en termes de services, d'accompagnement après à l'école, le CSAS qui vient en appui sur les aides sociales, etc. Donc c'est un tout qu'il faut dimensionner.
Jérémy, s'il te plaît.
Oui,
je me suis à la rappeler à chaque fois parce que cette dénomination de logements sociaux, ça fait peur à tout le monde dans le village. On croit tous qu'on va avoir des cassos. Je suis en train de chercher le barème là. Pour deux personnes, pour avoir des logements sociaux, les revenus, c'est 37 982 à ne pas dépasser. Pour un jeune couple, 45 676. Donc j'imagine s'il y a des enfants derrière. Donc les cassos, ce n'est pas des gens qui ont revenu comme ça. Donc quand on parle de logements sociaux, comme disait M. le maire tout à l'heure, il y a peut-être 90% autour de la table qui ont droit. Ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs publics aient employé ce nom, et j'ai eu l'occasion de le dire, parce que ça effraie tout le monde. On croit qu'on va faire des HLM au Val.
Mais la question, c'est quel programme on propose, oui, en fait. C'est ça. Et c'est quel urbanisme. Et là, on voit que l'urbanisme a un réel impact sur le quotidien. Et la façon dont on pense les programmes et la mixité, et quand on voit que nos secteurs à mixité sociale du PLU que l'on a aujourd'hui, monté par l'équipe précédente, prévoient des zones à mixité à 70%, pour moi, 70%, c'est pas mixte. Hein. Mixte, ça veut dire 50 au moins. Et pour moi, les programmes, c'est plutôt 20-25% de logements sociaux pour 75 à 80% de logements hors social. Ce qui permet d'avoir une belle intégration et une mixité de la population et d'avoir un vrai programme sociétal.
Mais comme le disait Monsieur Lefebvre, effectivement, et Monsieur le maire le disait, 70% de la population française est éligible aux logements sociaux. Parce que quand on parle de logements sociaux, là, c'est pas le but de la réunion, mais on vous présenterait, projetterait les plafonds de revenus. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent y prétendre, et ce ne sont pas des cas sociaux.
Non, mais il faut bien le penser. Voilà, c'est ça. Il faut bien. Donc ça, c'est tout le travail du PLU et la finesse de ce qu'on va pouvoir apporter sur la façon de faire. Et donc, on voit très bien l'intérêt là d'un document d'urbanisme qui rejoint bien l'intérêt des finances communales, puisque ça permet aussi d'orienter les choses différemment. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 12, vote des subventions aux associations pour l'exercice 2023. Et donc, je donne la parole à Monsieur Christian Bentoumi.
Merci, Monsieur le maire. Alors, il est proposé à l'Assemblée municipale de voter les subventions aux associations locales au titre de l'exercice 2023 et de répartir les crédits votés au budget à l'article 6574, subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé, pour un montant prévisionnel budgété de 70 000 euros. Les subventions identifiées pour un montant de 53 200 se répartissent telles que prévues dans le tableau qui va suivre. Le reliquat constitue une réserve en cas de demande exceptionnelle en cours d'année. Donc, je vous donne la liste.
Avant ça, Christian, je vais demander au président d'association et trésorier, mais je voulais laisser démarrer la délibération, uniquement président et trésorier des associations, mais d'aller voir l'exposition, elle est très jolie en bas.
Non, Max, c'est ça,
Jeanne, c'est Florence ou c'est vous trésorière ?
Non, uniquement les président et trésorier.
Oui.
Tu es trésorière.
Et
bonne expo.
Et Provence Violette ?
Non.
Elle n'est pas trop. Ah, d'accord.
Jean, tu es président du sang, donneur de sang.
Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire sortir que lorsque...
Bien, merci. Donc, nous allons poursuivre la délibération. Monsieur Bentoumi, allez-y.
Bon, ben, ceux qui sont sortis n'auront pas l'information, mais comme ils l'ont reçue par mail, ben, ils consulteront. Hein. Alors, la Campado, 1 000 euros. L'Association culturelle valoise, 5 000 euros. L'AEVAC, ce sont les médaillés militaires, 300 euros. Les Amis de Paracol, 3 000 euros. Anime Paracol, à ne pas confondre les Animes Paracol, c'est la maison de retraite, hein, 600 euros. Arrêt Passion, 300 euros. Bilboc, 10 000 euros, dont 2 000 ont déjà été versés. Le Comité communal des feux de forêt, 500 euros. Chasse et nature, 650. La Clé des champs, 500. Club de loisirs, 1 000 euros. Le Comité valois du jumelage, 1 000 euros. La Confrérie Saint-Antoine, 17 000 euros. Peut-être qu'il y aura des questions et on donnera un petit peu des précisions, hein, pour expliquer certaines choses. Copain du Jazz, 500 euros. Donneur de sang, 500 euros. FNACA, 250. Gym Loisirs Valin, 1 000. Le Sporting Club Valois, 8 000. Les médaillés militaires, 250. Les modélistes, 100 euros. La prévention routière, 350. La Provence Violette, 500. Les randonneurs valains, 300. Les Rénailleries valains, 500. Sapeurs-pompiers, 1000. Le souvenir français, 600. Club de tennis, 1000. Les Valeureuses, 250. La Valoise de pêche, 1000 euros. Et le Vendée Collines, 1000. Le yoga, 600. La Dama Var, 150. Et l'écho des restanques, 1500 euros. Alors donc, ça fait un total de 53 200 euros. Mais il y a un reliquat en réserve de 9 800 euros, ce qui fait que la subvention à voter, en tout cas la réserve, est de 70 000 euros. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions sur certaines associations ou sur des besoins d'explications?
Oui, monsieur oui. Courdouin.
Moi, je me souviens qu'on avait, par le passé, revu un peu comment elles étaient attribuées. On avait dit que c'était plus au mérite et qu'on leur demandait aussi de plus justifier ça. On avait déjà pas mal évolué, mais on voulait encore renforcer ça. Je voulais savoir si ça a été fait.
Alors, pour te répondre, oui, par exemple, tu as certaines associations qui ont vu une nette baisse de leurs subventions. Elles sont rares. Hein. Globalement, on a respecté les demandes des gens parce qu'en étudiant leur dossier, on a vu bon, que c'était normal de continuer à verser quasiment la même chose. Voilà, donc, il y a eu très, très peu de baisses. Mais quand il y a eu des baisses, c'est que vraiment...
C'est significatif, par contre.
Oui.
Donc la commission, oui. En fait, a analysé l'ensemble oui. des demandes.
Parce que tous les dossiers ont été étudiés. Donc, j'essaie de regarder. Globalement, il y a deux ou trois qui ont eu des baisses. Globalement, pas énormes, sauf une. Et par contre, peut-être il faut donner quelques explications pour la confrérie qu'on a dû un petit peu... Bon, qu'il y avait l'histoire de la foire à la saucisse.
Avant, pour terminer sur les baisses,
je vois.
Sur les baisses, quand même, pour donner à oh, les oui. éléments, en gros, ce qui est proposé, c'est que c'est quelque chose de probatoire. C'est-à-dire qu'il y a une association qui ne fait rien, qui n'organise pas d'événements qu'elle devrait faire. Donc, on a supprimé une grosse partie de la subvention. On recevra les présidents, le président ou la présidente en question, pour lui expliquer. S'il y a un changement, à ce moment-là, on resoumettra au conseil municipal une mise au vote pour accorder ce qui a été supprimé. S'il n'y a pas d'évolution, eh bien, la subvention ne sera pas versée.
D'autant plus que, je pense à un cas précis, mais la subvention de l'année dernière n'a pas été utilisée. Donc, il n'y avait pas de raison oui, de redonner.
Je ne cherche pas à faire de baisse.
Par exemple, les boules.
Les boules.
Les Boules ne fait pas de concours ni pour le 1er mai, ni pour la Saint-Cyriac. Fait des petits événements, des challenges entre eux. Mais en termes de relations avec la vie communale, il n'y a plus rien de ce qui se faisait auparavant. Donc ce qui a été décidé, c'est de dire, ben là, à ce moment-là, nous, on vous réduit de manière significative, sauf si vous proposez des concours. Et à ce moment-là, on vous reproposera de le revoter. Ça me semble normal. C'est un contrat de confiance. La subvention, elle a deux actions, à mon sens, deux orientations. C'est la première, c'est de subvenir au petit quotidien des charges de l'association, et normalement, qui sont de quelques centaines d'euros. Hein, c'est pour pouvoir compléter les adhésions, inciter les associations à aller vers l'autonomie pour bien récolter de l'argent par son activité, etc., ou du mécénat, ou son travail qu'elle va faire à mener. Et ensuite, si elle mène des projets d'intérêt collectif, à ce moment-là, la commune va abonder plus. C'est, en général, c'est comme ça. Et la progression, Steve, pour te répondre, là, on en arrive à ce travail-là aujourd'hui. On a besoin d'avoir un suivi sur ce budget-là. Et donc, c'est plutôt de passer par un conventionnement avec l'association. C'est-à-dire qu'on met en projet des projets, des tournois, des objectifs. Si ces objectifs sont atteints, à ce moment-là, eh bien, on verse une subvention associée. Ce qui permet d'avoir un regard de l'ensemble du conseil municipal sur la réalisation de projets réalisés à partir d'une partie d'argent public.
Voilà, moi, c'était ça que je voulais savoir. Je ne cherche pas forcément à faire de baisse. Bon, je sais que M. Albertian en veut, il a bien raison.
Non, parce que l'enveloppe, elle est fixe.
Mais voilà, moi, des économies, je trouve ça bien. Voilà, je veux surtout qu'on justifie clairement, parce que je trouve ça logique, quoi qu'on fasse dans la vie de tous les jours.
Et c'est nous, de l'argent public.
Mairie, c'est à chaque fois qu'on fait une dépense, on doit le justifier. Et je trouve ça logique que ce soit fait. C'est très bien d'avoir une vie associative, mais si c'est pour Joby dans son coin, on peut le faire avec son argent personnel, je pense. Donc c'est très bien, c'était bah, simple.
Si vous le permettez, comme...
On a veillé à ça, quoi, voilà.
Et juste un dernier élément, après peut-être Alain, je te donne la parole. Parce que... Sur une autre association, par exemple, si une asso laisse en permanence l'éclairage allumé, quand on voit, on a parlé du coût de l'énergie, ça pose une réelle question. On a envoyé des alertes, l'association ne réagit pas, eh bien, pareil. On propose la même chose, la même baisse. Et après, on fait le point. Est-ce qu'il y a eu des efforts au cours de l'année? Oui, bon, ben d'accord. Alors, du coup, on vous permet. Voilà. Là, on est sur une pédagogie positive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on sanctionne, mais on peut corriger. Sauf si derrière, on se moque de la collectivité. Dans ces cas-là, après, on ne corrige plus. Et moi, ce que je vous propose, c'est que l'année prochaine, en tout cas, qu'on mette en action, j'en ai déjà parlé à M. Alberti et M. Leroux, c'est qu'on mette en plus des sommes versées et votées par le conseil municipal, l'équivalent en argent du soutien de la collectivité. C'est-à-dire que je suis un gros consommateur d'énergie parce que mon activité se déroule la nuit. Je pense au tennis, le foot, par exemple, ou les boules qui font tourner la nuit. Il y a des compteurs. On met en parallèle, s'il y a des tournois qui se font, parce que l'éclairage a été installé par la commune, en tout cas. L'idée est de dire, ça, c'est pour l'association. On met des agents, des services techniques à disposition pour amener des tables, des chaises, etc. C'est du temps qui est consacré par la collectivité pour l'activité de l'association. Pareil, on ne va pas le facturer, mais en tout cas, ce qui est proposé, c'est de dire, voilà, telle association, en fait, on vous donne 1 000 euros plus 4 000 euros de manutention. Et ça permet de voir réellement, en termes de politique, les biens. Parce que pendant que les agents font ça, ils ne font pas un autre travail pour la collectivité. Et c'est très bien qu'ils le fassent. Et il faut avoir une dynamique d'association, associative sur la commune, c'est la vie d'un village. On a un village qui est très dynamique et les événements qui sont menés par les associations, tu le sais très bien en organisant certains événements municipaux, l'énergie que ça prend, le bénévolat, c'est formidable pour faire vivre un village. Et s'il n'y avait pas ce dispositif, qui caractérise en tout cas le tissu social en France, on n'aurait pas autant d'événements. Et ça marche grâce à ça. On doit le soutenir, mais il doit y avoir quand même du contrôle. Et c'est ce que tu dis. Monsieur Alberti, vous souhaitez réagir.
Je voulais...
Alain voulait parler.
Non, merci. Merci, monsieur Albert. Non, comme monsieur Courdouin s'est permis de dire que je souhaitais, je dirais, brider et faire attention. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est de l'argent public. C'est l'argent de nous tous que nous distribuons. Donc, effectivement, quand je regarde le total, il y a 70 000 euros de versés aux assos, avec un reliquat compris de près de 10 000 euros. Mais nous sommes très attentifs, comme le disait monsieur le maire, on va être attentifs aussi au comportement de ces personnes-là, à l'état de propreté dans lequel ils laissent leurs locaux ou autres, et ça, il y a des choses à dire peut-être à ce niveau-là.
Qui sont aussi des locaux municipaux.
Voilà, donc il faut le regarder ça aussi. Et puis, est-ce qu'ils sont vigilants quant à l'énergie et à la consommation d'électricité qu'ils font? Tout ça, c'est important. On se doit de le regarder. Et puis aussi, il y a certaines associations qui se démènent, qui font des événements. On se doit de les accompagner. Celles qui en font un peu moins, eh bien, on les accompagne un peu moins. Et on verra si elles sont aptes à réagir, à faire autre chose. Voilà, c'est, je dirais, la prime aux bons élèves. Voilà. Mais on n'a pas la volonté de les réduire, parce qu'on est toujours sur une base de 70 000 euros par an. Et tant mieux que nous ayons des associations qui fonctionnent très bien. Et il faut les en remercier.
Et les encourager, au contraire. Ils ont notre soutien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Non? Alors. Oui. Ah oui, c'est vrai.
De.
Alors.
Non, monsieur Barra. Quoi, la question? Ah oui, parce que y a besoin d'un soutien qui est justifié, parce que notre foire à la saucisse, c'est il y a l'augmentation de la cherté des produits, donc ils ont fait un petit peu un calcul et on a épluché vraiment leur budget prévisionnel, donc il n'y a pas de gaspillage d'argent, c'est vraiment justifié. Parce que tout augmente tellement, ils ont fait un petit peu une prospection sur ce que ça coûterait. Donc si on veut continuer la foire à la saucisse, on est obligé de leur donner un petit coup de pouce.
Peut-être monsieur Morel, parce que alors, là, l'association a été reçue, tous les éléments ont été présentés pour bien comprendre, parce que c'était, en gros c'est l'enjeu, est-ce qu'on peut faire la foire à la saucisse l'année prochaine ou pas?
Oui.
Donc la question était comment on peut accompagner. Donc là, il y a une double démarche. Donc vous avez reçu Monsieur Saint-Oumi, mais je vois qu'il y en a deux qui attrapent le micro et qui veulent parler. C'est donc c'est important, voilà. Si vous
effectivement,
pouvez,
c'est le tandem ici présent qui effectivement a vu avec ces personnes-là. Et on se doit, tu parleras chiffres pour une fois, moi je parle différemment, on se doit de reconnaître l'exemplarité, la bonne volonté de ces gens-là. Ce n'est pas simple. On nous a présenté un budget prévisionnel et des budgets passés, c'est très compliqué. La cherté, l'élévation des prix leur fait très mal. Alors, c'est très facile, on peut très bien dire, bon, ça nous coûte tant, donc il y a tant de repas et on ajuste. Et on augmente le prix du repas. Mais si on fait ça, c'est plus possible, quoi. Ça, c'est compliqué. Donc, on a vu vraiment leur bonne volonté. Et je dirais qu'on se doit de les accompagner parce que ça me paraît être la fête emblématique du Val. Si on ne veut pas être les fossoyeurs de la foire à la saucisse, hein, tout simplement. À vous, M. Morel.
Oui. Bah, je crois que tout a été dit de toute façon. Au niveau de la transparence des comptes de la confrérie, il n'y a absolument rien à dire. On était trois, donc on a pu tout vérifier. Il y a effectivement un surcoût. On fait appel à des traiteurs, donc les prix ont explosé. Il y a les animations, les prix ont aussi explosé. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est une fête emblématique. On essaie de la maintenir. On a prévu de se revoir à la fin du mois de septembre, enfin en tout cas dans le courant du mois de septembre, après la fête, pour faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on peut améliorer, justement pour éviter d'avoir des surcoûts. Mais bon, voilà, ça c'est un choix politique, mais c'est aussi au service des Valois. On ne s'est pas juste fait plaisir pour faire ça.
Et le point fort quand même, c'est que là, il y a un partenariat important qui se met en place, puisque l'idée aussi était de revoir les repas sont d'un certain prix, il faut le dire. Pas toutes les familles peuvent venir manger un repas de la foire à la saucisse quand on est deux, trois enfants. Ça pèse très vite. Donc, on a revu aussi le format du samedi soir pour en refaire aussi une fête villageoise et qui soit abordable en termes de tarification. Pour que les Valois puissent profiter le soir de leur fête. Et par contre, le dimanche, c'est une fête plus ouverte, plus visitée par l'extérieur. Donc on a prévu aussi de travailler dans ce sens-là pour accompagner. Il y a une révision du format, totalement. Mais en gros, c'est où on continue et tu sais... Non. C'est une évolution, puisque on peut pas la perpétuer. Exactement. On en a déjà eu parler, Olivier. On est exactement dans cette vision-là. Tout à fait. La vision, c'est de lui donner... Alors, pas rapide, parce qu'on en parlait avant Covid. Il y a eu Covid au milieu. Redémarrage, la foire après Covid, c'est compliqué. Elle a très bien marché en termes de fréquentation cette année. Mais il y a quand même des séquelles liées à la Covid, liées à la hausse du coût, liées à beaucoup de choses. Donc, la municipalité, ce qu'il est proposé, c'est de l'accompagner. Mais en même temps, c'est l'occasion de réfléchir, de re-questionner le modèle et pas d'en faire une coupure complètement différente cette année, mais en tout cas de travailler une transition. Une transition, elle est partout, même à la foire à la saucisse. Voilà, c'est une transition.
D'autant plus que quand on les a reçus, vraiment, ils étaient un petit peu dépités. Ils se posaient vraiment la question de continuer ou pas, quoi. Donc, ils avaient vraiment besoin de ce coup de pouce. Il faut.
Ben quand on voit le travail que c'est un tel événement, c'est des mois de préparation pour deux jours de gros stress. Et encore, ce n'est pas le coût réel si on comptait le temps des bénévoles. Et si on pourrait professionnaliser la foire, prendre un prestataire pour la faire. C'est ce qui se fait dans d'autres foires, d'autres communes. Mais on n'aurait même pas les moyens. Et ça ne serait pas l'aura que ça a aujourd'hui et l'esprit qu'elle en dégage et qu'elle pourra en dégager demain.
Parce que ces bénévoles, ils travaillent quand même toute l'année. Dès le mois de janvier, ils commencent à prospecter pour les exposants, etc. C'est pas seulement les trois jours ou la semaine qui précède la foire. Hein. C'est des réunions régulières de travail, d'avancées mensuelles. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas leur refuser cette demande. Quoi.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est dit. Je pense qu'ils ont bien pu profiter de l'exposition en bas.
Encore une remarque. Cette année, on a eu pratiquement... Toutes n'ont pas demandé de subvention. On a eu à peu près 6 ou 7 nouvelles associations. bon, diverses, mais on sent qu'il y a une montée en puissance de ce besoin associatif.
Merci, Monsieur Bentoumi, pour ce point de météo association. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Pouvons passer à la délibération numéro 13 et on va faire rappeler les présidents et trésoriers des différentes associations. Encore, vous étiez plusieurs, vous pouvez papoter au moins, vous. Bien, délibération numéro 13, dernière délibération de ce conseil, vote de la subvention pour le Centre communal d'action sociale dans le cadre de l'exercice 2023. Et je donne la parole à M. Alberti qui peut nous en faire l'esprit de la délibération.
Oui, l'esprit. Merci, M. le maire. Bien, c'est effectivement de permettre à cette structure de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Je crois que les habitants peuvent se rendre compte du travail qui est fait à ce niveau-là au quotidien, à la fois par les personnes qui la composent, mais aussi avec la structure du Val-Service. Et on se devait, je dirais, à minima, de maintenir une subvention qui est de l'ordre de 12 000 euros, me semble-t-il, qui n'a pas changé, et dont ils arrivent, je dirais, à avec ce montant-là, à faire de belles choses. Voilà, à faire de belles choses. Donc, je vais passer la parole à Monsieur le maire. C'est voilà, cette délibération doit être votée et je pense qu'elle ne posera pas de problème.
Bien, c'est donc une subvention de 12 000 euros, comme on procède chaque année.
Comme d'habitude.
Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et je crois savoir que, Corinne, tu veux nous dire quelques mots en tant que vice-présidente du CCAS.
Oui, merci de cette confiance et d'avoir accepté le renouvellement de cette subvention. Et pas plus tard que hier, nous avons eu aussi notre budget CCAS. Et je peux vous dire que voilà, cet argent nous est nécessaire. On a fait un point sur ne serait-ce que pour l'aide alimentaire. Au premier trimestre 2021, nous avions accompagné 30 familles. Et là, à ce trimestre-là, en 2022, pardon. Et là, en 2023, on a accompagné plus de 50 familles, ce qui représente à peu près 1500 personnes. Nous avons des familles nouvelles qui arrivent. Donc, je rejoins tout ce qu'on a dit, la hausse de la vie, du coût de la vie, etc. Donc, voilà, c'est avec cette subvention. Parce qu'en fait, nous avons décidé d'augmenter la subvention de la Croix-Rouge, en sachant que la subvention était à 1500, on l'a passée à 2000. Mais c'est bien la Croix-Rouge de Brignoles, ça concerne bien la Croix-Rouge de Brignoles, et voilà, parce que eux, pareil, quand ils vont à la banque alimentaire, ça a un coût, tout augmente. Donc voilà, il faut savoir que on est bien en crise, le nombre d'aides alimentaires augmente. Absolument. Donc merci à vous tous.
Merci. Donc nous avons pas encore terminé. Monsieur Alberti, vous voulez intervenir?
Oui. Merci, monsieur. Une dernière précision. Cette aide alimentaire sont des bons alimentaires qui se récupèrent auprès du commerce.
Non, c'est plus ça.
Ah, pardon. La convention. Alors, par contre, non, pas pour les bons alimentaires octroyés auprès de certaines personnes qui sont en difficulté. Sachez que nous les regardons. Je les regarde avec précision, à savoir que j'examine le détail des achats qui sont effectués et quel type d'achat.
En fait, il y a deux types de fonctionnement. Il y a le bon alimentaire d'urgence parce qu'on ne peut pas distribuer l'alimentation maintenant de manière immédiate. Je prends un exemple, un vendredi soir, une famille arrive et n'a plus rien pour manger et il faut acheter pour le week-end. Donc ça, c'est vraiment les fonds d'urgence. Et après, il y a l'aide alimentaire qui est un dispositif plus complet. C'est un rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec la Croix-Rouge et Potager et compagnie. Et donc là, les gens viennent et paye une partie, parce qu'il y a une question de dignité aussi, paye une partie quand même de l'achat du panier. Et c'est distribué grâce aux bénévoles du CCAS, des habitants qui viennent aider, et c'est géré par le CCAS. Mais sachez que ce budget-là, ce n'est pas uniquement la distribution alimentaire, c'était un petit peu l'historique de la commune. Hein. C'était on distribuait des bons alimentaires, on faisait le goûter de nos aînés, et en gros, c'était terminé un peu d'aide. Aujourd'hui, le CCAS, c'est vachement diversifié. On touche autant les jeunes que les aînés et ceux qui rencontrent un accident dans la vie d'un point de vue financier. Donc il y a l'aide alimentaire, mais il y a l'aide au permis, il y a l'aide au post-bac, le relogement d'urgence. Il y a également les ateliers pour les seniors, la mémoire, il y a l'accompagnement sur le numérique. Et c'est un lien fort avec le Val-Service qui est en contact permanent avec les habitants et qui peut détecter des personnes qui rencontreraient certaines difficultés, et à ce moment-là, il y a une prise en charge. C'est Alzheimer, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui, la politique CCAS, l'alimentation positive, par exemple, le défi pour manger plus sain, accompagner les familles, les enfants et les plus âgés, c'est mené par le CCAS. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui monte en puissance et qui est très varié, et qui est dans le sens social, mais de société. C'est-à-dire qu'on peut tous bénéficier des services proposés par le CCAS pour pouvoir avancer dans la vie et échanger entre nous. Voilà, c'était les précisions à ce niveau-là sur le projet CCAS. Et donc, je me dois de vous donner donc la liste des décisions prises par l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales depuis le dernier conseil municipal, c'est-à-dire à savoir le 10 mars 2023 au 7 avril 2023. Donc plusieurs décisions destinées en justice, SAR Helvète Colline, Théodore Investissement, Nicolas Guy, Gorée, et la mise en place de l'avenant numéro 1 en termes de marché des hygiènes, et l'attribution de plusieurs marchés de rénovation, marché public, pour la rénovation du foyer aux entreprises. Donc c'est GFAP lot 8, ERL Verakia lot numéro 2, Tech Bois Concept lot numéro 3, DTF lot numéro 1, SPPR, lot numéro 6, 5, 6 et 7, AD Fermeture, lot numéro 4, SAS Pourrière, lot numéro 9 et Climat Génie, lot numéro 10. Tous ces lots en fait, ont été attribués suite à la commission d'attribution des marchés qui s'était réunie dans le cadre de l'appel d'offres qui avait été réalisé pour la rénovation du foyer. Bien, mais écoutez, je pense que nous avons bien travaillé ce soir, même j'en suis convaincu. Quand on vote un budget avec les orientations et les projets, c'est quand même très ambitieux pour notre commune et c'est important. Il est 20h37 et donc notre conseil municipal est terminé. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout un très bon week-end de Pâques. Passez de bonnes fêtes de Pâques et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous.